Que Dieu soit béni. Bonsoir mes frères et bonsoir mes sœurs. Que la paix de notre Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit le partage de nous tous ce soir. Ça va? Avez-vous passé une bonne journée? Avez-vous passé une bonne journée? Mais soyez gentils de me répondre. Je pose une question et je n'ai pas de réponse alors que vous êtes nombreux devant moi. Avez-vous passé une bonne journée? Bien, eh bien, nous sommes contents de nous retrouver ce soir dans la présence de Dieu, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que vous chantiez tout à l'heure, vous savez, dans mon cœur, je bénissais Dieu. Je bénissais Dieu et je lui rendais grâce de ce que lorsque son peuple se rassemble, eh bien, nous nous trouvons dans la présence de celui qui, dans le psaume 45, psaume des fils de Corée, eh bien, a été décrit et dépeint ou entrevu avec le langage particulier qui est employé, où le psaume 45 ouvre la pensée ainsi, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ça fait une petite note prophétique, mais surtout poétique, puisque les psaumes font partie des livres poétiques, n'est-ce pas? Il y a des livres prophétiques, il y a des livres historiques, mais il y a aussi des livres poétiques. Les livres poétiques, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne savent pas vont le savoir, ce sont le livre de Job. Job, les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, puis le Cantique des Cantiques. Ça fait 5. Pourquoi tu rigoles, Jean-Claude? Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, je reviens dans ce que je vous disais. Le fils de Corée ouvre le psaume 45 par ses paroles, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alors, je dis, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Et puis, il continue. Je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme et la grâce est répandue sur tes lèvres. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque nous lisons cela, nous sommes obligés de regarder Jésus dans son ministère lorsqu'il était sur la terre. Non seulement il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, guérissant toute maladie et toute infirmité, car Dieu était avec lui. Ça, c'est la parole que le Saint-Esprit met dans la bouche de l'apôtre Pierre, dans la maison de Corneille. Et puis, si nous voyons Jésus dans son ministère, parole pleine de charme, il y avait dans la bouche de Jésus des paroles dites à propos. Paroles dites à propos, qui lorsque nous écoutions Jésus, souvent dans des situations dramatiques, de souffrance, de douleur, d'incompréhension, d'incertitude, Jésus pouvait dire, ne crains rien. Combien de fois Jésus a dit, ne crains rien? Si moi je vous dis ne crains rien, vous pouvez me dire, pasteur gentil, vous êtes bien gentil, c'est le cas de le dire, mais vous ne connaissez pas ma situation. Mais si Jésus dit ne crains rien, c'est parce que la déclaration de Jésus comme une parole dite à propos a toujours été suivie des faits. Secours, assistance, délivrance, intervention divine, transformation d'une situation qui était vraiment au départ désastreuse en une situation de tranquillité et de paix. Amen. Car si Jésus dit ne crains rien, il sait pourquoi il le dit et il sait ce qu'il va faire. Gloire à Dieu. Mais aussi, notre Seigneur, dans les paroles pleines de charme, avec les paroles dites à propos, quelquefois, il manifestait ce qu'on appelle les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse, lorsqu'elles sortaient de la bouche de Jésus, avaient une particularité. C'est qu'autant elle répondait à l'esprit par lequel était animé celui qui l'avait prononcé, mais c'était aussi une parole destinée à déshabiller totalement la conscience du détracteur et l'amener à comprendre qu'il n'est pas meilleur que les autres. Parfois, souvent, nous sommes toujours champions pour juger les autres. Parfois, souvent, nous jugeons selon l'apparence. Et nous jugeons quelquefois sur un oui-dire. Voulez-vous un exemple de la parole de sagesse lorsqu'elle sort de la bouche de Jésus? Est-ce que vous le voulez?
Oui.
Eh bien, écoutez, manifestez-vous un petit peu. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Mais ne cherchez pas dans votre Bible, je vous explique quelque chose. Ah, vous prenez des notes. Ah d'accord, prenez des notes alors. Prenez des notes et notez. Et voici qu'on amène vers Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les détracteurs, les pharisiens, les gens religieux disent à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Vous voyez qu'il est mentionné, il disait cela pour l'accuser. C'est-à-dire pour essayer de surprendre Jésus en flagrant délit de transgresser la loi. Et ce jour-là, ils sont tombés sur un os. Parce que quand vous pensez surprendre Jésus en transgressant de la loi, vous ne savez pas ce qui vous attend. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Non seulement il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Il connaît les pensées, il connaît les cœurs. Et notre Seigneur, après s'être baissé sur la terre, écrivant avec son droit, il se relève. Et voici que sort de la bouche de Jésus ce qu'on appelle une parole de sagesse. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, soustrayant son regard au leur, il se rebaisse et continue à écrire. Et voici que Jésus se lève et entre le lever de Jésus et ce qu'il va dire à la femme, la Bible nous dit que tous, une fois que Jésus a prononcé la parole, tous repris par leur conscience. Et que la parole que Jésus a prononcée a trouvé des consciences chargées, des consciences qui leur montrait à l'intérieur d'eux qu'ils n'étaient pas meilleurs que la femme qu'ils, soi-disant, avaient surpris en adultère et qu'ils menaient devant Jésus pour essayer de surprendre Jésus en flagrant délit de transgression de la loi. Tous, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, se retirèrent. Parce que la parole de Jésus a été trouvée leur conscience a été mise à nu et finalement, ils ont compris que, comme transgresseurs de la loi, ils venaient de commettre deux transgressions eux-mêmes. Première transgression, si la femme avait été surprise en adultère, donc la loi disait qu'elle était impure. Donc si elle était impure, il n'y avait aucune raison de la faire rentrer dans le temple. Vous me suivez toujours? Et puis, deuxième transgression qu'ils commettent, deuxième. La loi disait que s'il y avait adultère, l'homme et la femme seront lapidés. Ils ont amené la femme, et où est l'homme? Donc, ils étaient aussi coupables que la femme. La parole de Jésus a déshabillé leur conscience. Et voici que Jésus s'adresse à la femme. Femme, mais où sont ceux qui t'accusaient? Première question, personne t'a-t-il condamné? Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. C'est Jésus qui prononce une parole de sagesse va aussi être confronté à des détracteurs appelés des sadducéens. Il y avait une doctrine qui prétendait qu'il n'y avait pas de résurrection de juste, résurrection des morts. Ils disaient que ça n'existait pas. Et voici que ce jour-là, ils viennent vers Jésus pour lui dire, « Maître, nous savons que tu es bien juste et que tu agis dans la droiture. Est-il permis de payer le tribut de César ou non ?» Très bonne question, parce que encore, Il voulait surprendre Jésus et l'amener sur un terrain pour plus tard essayer de l'accuser, pour l'éprouver. Mais ils sont encore tombés sur un os. Jésus leur a dit, donnez-moi un denier. La pièce en vigueur. Alors, voyez le denier, Jésus dit, de qui sont cette inscription et cette effigie? Donc, un visage et une inscription. Ah ben écoutez, ils n'ont fait que dire la vérité de César. Et voici la parole de sagesse qui sort de la bouche de Jésus. Rendez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à lui. Terminé. Leur conscience bouleversée, chavirée. Ils ont compris qu'avec Jésus-Christ, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que Jésus n'est pas un homme comme les hommes. Lorsqu'il parle, la parole qui sort de sa bouche, c'est véritablement la pensée de Dieu qui est exprimée. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis, avec la parole de sagesse dont je viens de vous faire mention, avec la parole dite à propos qui sortait de sa bouche, qui était suivie des faits, Jésus aussi avait une parole qu'on appelle une parole de connaissance. Et lorsque la parole de connaissance sortait de la bouche de Jésus, c'était un moyen divin de révéler l'invisible, de révéler ce qui était caché. Par exemple, vous voulez un exemple? Bien, mais l'exemple, c'est dans l'évangile de Jean, où nous voyons Jésus rencontrer un jeune homme qui s'appelle Nathanaël. Et lorsque Philippe va dire à Nathanaël, nous avons rencontré Jésus de Nazareth, celui de qui les prophètes ont parlé, de qui la loi Moïse a rendu témoignage. Alors l'attitude de M. Nathanaël, c'est de déclarer, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors lorsque il lui est dit, viens et vois, quand Jésus voit M. Nathanaël venir, Jésus, en tant que fils de Dieu, et Dieu lui-même sait ce qu'il a dit. Mais Jésus va surmonter le mal par le bien. Le voyant, Jésus va dire de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu? Réplique Nathanaël. Réponse de Jésus, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et voici l'attitude de Nathanaël sur la déclaration de Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Il vient de dire que est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais quand Jésus lui donne la parole de connaissance qu'il a vue sur le figuier, eh bien Nathanaël entend peut-être que bon juif, religieux, s'était mis un petit peu à l'écart pour pouvoir prier Dieu. Mais il ignorait que non seulement Dieu là-haut le voyait, mais Dieu le Fils, qui était à proximité, le voyait aussi. Alors, la déclaration de Nathanaël, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, Jésus va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Désormais, vous verrez de plus grandes choses. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, mais Jésus mentionne en sa qualité de Fils de l'homme, c'est-à-dire il se met en évidence comme étant le garant des alliances que Dieu conclut avec l'être humain. Car il y a anges qui montent et qui descendent, ça veut dire Dieu fait alliance avec l'homme. Vous êtes toujours au clair? D'accord, que Dieu soit béni. Mais c'est ça, mes bien-aimés, la vie chrétienne. C'est ça, la vie en Christ. C'est ça, le travail pastoral, c'est d'expliquer l'Écriture quand Dieu nous le permet. Donc, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, déclare le psalmiste, fils de Corée, et cela a un rapport non seulement avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais aussi avec son ministère, au travers duquel tant d'âmes ont été secourues. Tant de personnes ont expérimenté la grâce de Dieu et son secours. Et ce soir, nous sommes de ceux-là, mes frères et mes sœurs. Nous sommes de ceux à qui Dieu a fait grâce et nous allons le voir dans l'Écriture et d'après la direction que m'a donnée le Saint-Esprit pour que nous puissions méditer la parole de Dieu ce soir. Notre Seigneur a déjà commencé au travers de ce que j'ai partagé avec vous à nos enseignés. Ce que je vous ai donné là, c'est de l'enseignement spirituel, biblique, la parole de Dieu. Amen. Et puis, maintenant, nous allons entrer dans un temps de méditation qui va nous amener dans le psaume, j'ai dit 135, c'est ça, hein? Le psaume 135. Et nous allons regarder à partir du verset 135, à partir du verset 3. Oh, on peut même prendre à partir du verset 2. Bon, c'est un petit peu, ça commence par la louange. Le psaume s'ouvre ainsi, le psaume 135. Louez l'Éternel. Es-tu venu ce soir pour louer l'Éternel? Oui. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Est-ce que vous dites amen?
Amen.
Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Mais il le fait dans les cieux, et il le fait aussi sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Et voici le verset qui va nous intéresser ce soir au premier degré. Lisez la fin du verset 7. Il tire le vent de ses trésors. Dieu tire le vent de ses trésors. Donc ça veut dire que Dieu a un trésor immense et de ce trésor immense, Dieu tire le vent. Or si Dieu tire le vent de ses trésors, ce n'est pas autre chose pour qu'il en fasse une utilité selon sa convenance. Amen. Et si nous voulons regarder cela de plus près, je vous invite à vous arrêter avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 14 et au verset 21. C'est le récit qui accompagne la sortie du peuple de Dieu, conduit par la main du Seigneur à main forte et à bras étendus, avec puissance et autorité sous la direction de Moïse, son serviteur, où, après que nous ayons vu la main de Dieu agir dans des miracles de terreur pour obliger le Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël, la Bible nous montre que Dieu va dire à Moïse de prendre sa verge et de l'étendre sur la mer et fends-la. Vous avez déjà essayé de prendre une verge pour la tendre sur la mer et la fendre? Non. D'abord, même si vous essayez, vous n'y arriverez pas parce que Dieu ne vous a pas donné cet ordre-là. Mais Dieu avait donné à Moïse cet ordre-là. Et si Moïse s'est soumis et a obéi, alors Dieu a pris les choses en main. Ce n'est pas Moïse qui a fendu la mer. C'est Dieu qui a fait souffler un vent qualifié d'impétueux. Et le vent impétueux a soufflé toute la nuit, de sorte que la mer s'est fendue en deux monceaux. Et puis le peuple d'Israël a traversé à pied sec. Amen. Gloire à Dieu. Donc, là nous voyons que Dieu est en action et il utilise le vent comme un élément dans sa main pour pouvoir permettre que son peuple traverse à pied sec. Différence entre ce qui s'est passé pour Israël lors de sa sortie d'Égypte et lorsque son peuple devait entrer en Canaan. C'était plus la mer Rouge, mais c'était le Jourdain. Mais là, Dieu a agi différemment. Comment a-t-il agi? Des ordres ont été donnés à Josué. Il fallait que les sacrificateurs, sept sacrificateurs, portent l'arche. Que l'arche aille devant le peuple. Et qu'une certaine distance soit laissée. Et Dieu avait dit à Josué, dès que les sacrificateurs auront les pieds mouillés, la plante de leurs pieds touchera le Jourdain, chose qui, à cette période, est particulière puisque les rives du Jourdain regorgent à cause du commencement de la moisson, la fonte des neiges. Le Jourdain, un fleuve qui fait à peu près 30 mètres, 30 ou 40 mètres, je n'ai pas mesuré, mais les eaux regorgent de telle manière, ça fait au moins plus de 100 mètres de large. Et c'est à ce moment-là que Dieu amène son peuple dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous amène souvent devant nos impossibilités pour qu'il fasse éclater sa gloire.
Amen.
Dès lors que les sacrificateurs ont posé la plante de leurs pieds dans le Jourdain, la Bible nous dit que les eaux regorgent, mais le Jourdain maintenant s'est séparé en deux morceaux. Les eaux qui descendent sont arrêtées, et les eaux, de l'autre côté, les eaux ne pouvaient pas remonter parce que Dieu a mis une barrière de puissance, de telle manière que le peuple a traversé à pied sec. Gloire à Dieu. Donc ce sont des images qui nous montrent la capacité de notre Seigneur d'intervenir en utilisant les éléments qu'il a créés. Mais dans le ministère de Jésus, frères et sœurs en Christ, notre Seigneur en action a aussi parlé du vent sous divers aspects pour nous montrer, eh bien, ce qui va découler dans la vie d'un enfant de Dieu, de celui que je suis, de celui que vous êtes. Et par exemple, quand nous lisons l'évangile de Jean chapitre 3, au verset 1 à 8, nous voyons que monsieur nommé Nicodème, d'après le témoignage de l'Écriture, mais il y eut un homme nommé Nicodème qui lui vint vers Jésus de nuit. Et la déclaration de monsieur Nicodème à Jésus est celle-ci. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il lui fallut que Jésus dise à Nicodème, Nicodème, mais tu fais une belle déclaration extrêmement spirituelle, d'une grande portée évangélique. Voilà, j'ai dit, il lui fallut. Logiquement, Jésus aurait dû dire à Nicodème, Nicodème, tu fais une déclaration extrêmement spirituelle. Non, Jésus va profiter d'une occasion, cette occasion-là particulièrement, pour amener Nicodème sur un terrain qui est particulièrement important dans la vie de celui qui a rencontré Jésus, dans la vie de celui dans la vie duquel Dieu agit. Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela veut dire que s'il n'est pas né de nouveau, ses yeux spirituels restent fermés. Et s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans ce royaume. Cela veut dire que la nouvelle naissance est quelque chose d'absolument indispensable pour pouvoir rentrer dans le plan béni de Dieu lorsqu'on a expérimenté la repentance et la conversion. Et puis Jésus va continuer pour donner à Nicodème, qui est dans une perplexité par rapport aux paroles de Jésus, eh bien, Jésus va profiter pour pouvoir lui donner un enseignement qui se définit ainsi, à partir du verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nous sommes sur le terrain d'une impossibilité fondamental, puisque c'est une impossibilité. Ce n'est pas possible. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus met en évidence ce qui est humain et ce qui est spirituel. Et puis il continue, « ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et puis voici que Jésus va aller plus loin dans l'explication, car c'est une explication qui est nécessaire, qui est utile pour Nicodème. Il faut qu'il le comprenne avant qu'il soit amené à le vivre. Alors, regardez, Jésus dit, verset 8, quoi? Lisez, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et puis Jésus rajoute, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Plus haut, il a parlé de naître de nouveau. Mais là, il dit maintenant naître de l'esprit. Ce qui nous montre, frères et sœurs en Christ, que, en prenant l'image du vent, qui souffle où il veut, mais dont on ne sait ni où il sort, ni où il va, eh bien, c'est un peu comme ça qu'on peut définir celui qui est né de nouveau. Quand on est né de nouveau, frères et sœurs en Christ, il y a quelque chose en vous qui est indéfinissable sur un plan humain. Ceux qui vous entourent, quelquefois, ils ont bien vu qu'il s'est passé quelque chose en vous. Vous êtes changé. Vous n'avez plus le même langage. Vous n'avez plus la même manière d'agir. Même sur l'aspect extérieur, votre attitude a changé. Et pour essayer de vous cataloguer, ils vont dire de vous toutes sortes de choses. Moi, quand j'ai expérimenté la nouvelle naissance, dans ma propre maison, mon épouse a dit que je suis devenu fou. Mais oui, parce que il y a une telle transformation. Mon épouse dit à mes belles-sœurs, Claude va dans un endroit où on prêche l'évangile, il a tellement changé, je crois qu'il est devenu fou. Ah, mais je la comprends. Mais c'est un peu l'image de ce qui se passe ici. C'est tellement, nouveau. Comme le vent, mais ce qui est formidable, si vous ne savez ni d'où sort le vent, ni où il va, mais vous êtes obligé de voir qu'il est passé. Parce qu'il a laissé des traces. Eh bien, quand tu es né de nouveau, même si on ne peut pas te définir, on sera obligé de remarquer tes bonnes œuvres. On verra ce que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant. On remarquera que tu es au rang de ceux qui, après la conversion, après avoir expérimenté la rencontre avec Jésus, tu conduis à aussi manifester non seulement le fruit de l'esprit, mais ta vie transformée va se découler par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire que tu as reçu la puissance d'une vie impérissable. Et si avant de connaître Jésus, tu étais quelqu'un qui était un grand menteur comme moi et un grand voleur, j'étais pas un grand voleur, mais j'étais un grand menteur. Mais j'ai pas honte de le dire, puisque maintenant les choses anciennes sont passées. Mais oui, les choses anciennes sont passées et pour moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Oui, j'ai pas honte de le dire. Mais maintenant, ça c'est derrière moi, ça. En Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Et comme le vent, lorsqu'il est passé, pour ceux qui sont des Antilles, moi j'ai vécu des cyclones là-bas. Le cyclone, c'est un vent qui souffle à 140, 150 km à l'heure, des fois même plus. Et lorsqu'il passe, demandez aux bananeraies ce qui s'est passé. Tout est couché, les arbres cassés, les routes coupées. Pourquoi? Parce que ça laisse des traces. Et puis, le vent a une particularité aussi, même s'il ne souffle pas fort, mais il est capable de transporter des odeurs, transporte des parfums. Mais pour nous, la Bible dit que nous portons la bonne odeur de Christ. Partout où nous allons, nous portons la bonne odeur de Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs en Christ, quand on a une vie chrétienne superficielle, là où nous allons, au lieu de porter la bonne odeur de Christ, nous portons l'odeur de notre personnalité. Nous portons l'odeur de notre caractère. Mais plus la vie de Christ est intense en nous, plus le témoignage de Jésus-Christ sera conséquent dans nos vies. Gloire à Dieu. Voulez-vous voir notre vent? Bien. Donc nous avons vu que Jésus a pris l'image du vent pour montrer l'importance de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration de ce que je suis sur le plan humain. Car s'il y avait quelque chose de bon sur le plan humain, eh bien Dieu aurait amélioré Claude. Il aurait rendu Claude beaucoup, beaucoup plus gentil. Je ne sais pas si ça peut se dire, parce que je suis déjà Claude gentil. Mais il aurait fait en sorte que je sois tellement amélioré sous l'aspect humain que humainement, je pourrais éventuellement rentrer dans le ciel. Mais ça, c'est peine perdue. La Bible nous dit que notre vieille nature, il est corrompu dans son entendement. Voilà pourquoi Dieu va l'amener à être réuni à la poussière. Non, vous n'êtes pas convaincu? Ah, parce que vous pensez que vous irez dans le ciel avec votre vieille nature, mais vous allez mettre du dégât dans le ciel, vous allez mettre du désordre. Votre vieille nature, c'est pour la poussière. Pourquoi je vous dis cela, mes bien-aimés? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je ne l'ai pas pris au départ, mais je vous ramène dans le psaume 135. Voulez-vous venir avec moi le psaume 135? Oh, allez. Je vais vous donner une image de ce que je viens de vous dire là. Parce que le serviteur du Christ ne dit jamais rien qui passe par sa tête. Il dit les choses qui sont dans la conformité aux Écritures ou à l'Écriture. C'est l'Écriture qui a autorité, priorité sur tout. Regardez le psaume 135. Et si vous regardez au verset 3, puis nous allons descendre à partir du verset 3. Regardez, verset 3, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel, lisez avec moi, s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Stop. Vous avez compris pourquoi je vous ai fait lire ce verset? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris? Non? Mais je vais vous expliquer. Il aurait pu dire, il a choisi Israël et après mettre Jacob. Pourquoi met-il Jacob avant? Parce que Jacob définit ce que je suis dans la chair. Parce qu'au départ, Jacob, c'était celui qui était montré comme le roublard, le trompeur, l'usurpateur, celui qui était toujours décidé à faire un mauvais coup pour arranger une situation en sa faveur. Un peu ce que nous sommes dans la chair. Mais c'est auprès du guet de Jacob, lorsqu'il a fait une rencontre particulière avec Dieu, et qu'il a été frappé à l'emboîture de la hanche, que Dieu a permis que son nom soit changé. Je ne t'appellerai plus Israël, mais ton nom sera Jacob. Tu passes? Ah, Israël, vous suivez. Ça veut dire qu'il passe d'un état de trompeur, d'usurpateur, et voici qu'il devient un prince de Dieu. Amen. Mais la raison, c'est pas compliqué, mais bien aimé. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15. S'il y a des corps terrestres, il y a aussi des corps célestes. Mais ce qui est céleste n'est pas le premier. C'est ce qui est terrestre qui est le premier. Puis vient ce qui est céleste. Lorsque, eh bien, ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, et ce qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira pour nous cette parole. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais avec Jésus-Christ, nous triomphons parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Voilà pourquoi nous lisons l'Écriture, bien-aimés. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une richesse considérable. Mais encore faut-il que le Saint-Esprit nous éclaire, comme il faut, quand il faut, pour que nous puissions tirer la leçon adéquate, et qu'ainsi nous pouvons bénir Dieu sans faire une application personnelle et en tirer un profit pour notre vie comme enfant de Dieu. Amen. Voici le deuxième vent qui arrive. Pour le deuxième vent, je vous amène maintenant à Acte 2. Le premier vent, Jésus en parle pour donner une image de la nouvelle naissance à Monsieur Nicodème. Et je crois que ce soir, beaucoup d'entre nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Car si on n'est pas né de nouveau, la Bible nous dit qu'en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, c'est la vie de Dieu qui vient s'installer en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est de là que va découler ce que l'apôtre appelle la puissance d'une vie impérissable. Il va nous communiquer en même temps une espérance vivante. Il va nous attacher à la parole de Jésus, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Alléluia. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Un enfant de Dieu ne craint pas la mort. Elle arrivera quand Dieu la permettra. Mais il sait que lorsque le temps sera venu de fermer les yeux, il se passera pour lui ce que Dieu a dit au travers de la bouche de Jésus, et ses yeux vont se fermer ici-bas, mais déjà dans l'espérance, il va être réuni avec son Sauveur, et il attendra la résurrection des justes, que Dieu soit béni. Quand je fais un enterrement, moi je prends soin d'expliquer à l'auditoire concernant le défunt, je prends particulièrement cette parole de l'Écriture, qui nous met vraiment dans une réalité spirituelle bénie, et nous donne autant d'assurance que de certitude. Là, quel pasteur gentil. Eh bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13. C'est comme si l'apôtre soulevait un petit peu le bord du voile de l'invisible divin. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. D'autres versions disent au sujet de ceux qui dorment. Et ce, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et non seulement nous avons une espérance, mais nous avons aussi une espérance, dites avec moi, vivante. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus tous ceux qui sont décédés dans la communion avec lui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, quand moi je dis ces paroles venant de l'Écriture, je profite de dire à l'auditoire, monsieur, madame, ce n'est pas une fable de La Fontaine, ça. C'est une réalité divine. Et celui qui le vit, c'est moi quand je le prêche, c'est ce que je vis à l'intérieur. Et quand cela sera le temps pour moi, eh bien, d'expérimenter cette parole, je serai semblable au psalmiste qui dans le psaume 23 peut déclarer: mais bien sûr, l'Éternel est mon berger. Mais après, lorsqu'il arrive à cette particularité, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. C'est ça l'Évangile. La certitude de l'assurance que donne le Seigneur dans le cœur. de celui qui véritablement a rencontré Jésus comme sauveur. Moi, je n'ai pas rencontré Jésus en surface. Je n'ai pas rencontré Jésus-Christ de manière superficielle. Mais je sais l'expérience que j'ai faite avec lui. Et chacun doit savoir, dans ce cadre-là, où il en est avec le Seigneur. Parce que je ne peux pas être à votre place, mais rassurez-vous, vous ne pouvez pas être à la mienne non plus. Dernièrement, je disais dans un message que devant Dieu, pas plus tard que dimanche, chacun est un. Mon épouse, c'est mon épouse, mais il ne sait pas qui je suis devant Jésus. Il n'y a que Jésus qui sait qui je suis. Comme mon épouse. Comme chacun d'entre nous ce soir. On peut venir à l'église avec un beau visage. On peut être sur l'aspect extérieur, soi-disant très spirituel, mais ce n'est pas une référence. Quand Dieu sent ton cœur, il sait exactement où tu en es. Pas la peine de jouer la comédie, mes amis. Parce qu'il y a un moment donné où Dieu va enlever les masques. Et quand Dieu enlève le masque, si tu n'es pas conforme à ce qu'il dit, il y a la crainte que tu te retrouves dans une grande confusion et que tu aies une honte irréparable. Mais pendant que nous sommes sur la terre, travaillons à notre salut. Et laissons Dieu dans son école nous instruire et nous enseigner. Je viens de vous le dire, mes bien-aimés, le maître est là ce soir. Hein. Alors, là, j'ai dit acte 2, c'est ça? Je l'ai déjà dit, acte 2? Bon, mais si je l'ai dit, je le redis. Acte 2, verset 2. Donc, on a vu un premier vent qui est le vent de la nouvelle naissance dont Jésus fait mention. Mais il va faire aussi, ou plutôt l'Écriture va faire mention du vent dans acte 2, verset 2, au même verset premier. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et puis, si nous lisons cela, tous ensemble dans le même lieu, sans nous tromper, nous pouvons dire, attendant la promesse que leur avait fait Jésus-Christ. Parce que Jésus leur avait fait une promesse. Lorsque Jésus avait parlé plus haut dans les actes, chapitre 1er, verset 8, Jésus leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils étaient au bénéfice d'une promesse et ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Donc ensemble dans le même lieu. Mais voici ce qui va se passer pour que la promesse s'accomplisse. Tout à coup, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, un vent impétueux. Et quand je lisais le texte, quand je préparais le sujet, le Saint-Esprit me faisait remarquer, Claude, regarde bien que quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte, sous la direction de Moïse, lorsque Moïse a levé sa veille sur la mer sous l'ordre de Dieu, eh bien c'est un vent impétueux que Dieu a fait souffler toute la nuit. Vent impétueux pour la réception du Saint-Esprit, c'est le même mot que nous retrouvons, vent impétueux. Alors, pasteur gentil, c'est quoi un vent impétueux? Eh bien, le vent impétueux a cette particularité, c'est qu'il souffle vite et il a cette particularité, c'est de changer de direction rapidement. C'est ça un vent impétueux. Cela veut dire que quand nous considérons l'aspect du vent impétueux, nous pourrons prendre un peu l'image de ce qui se fait au milieu de nous lorsque nous faisons des baptêmes, des recherches dans le baptême du Saint-Esprit, c'est ça? Le Saint-Esprit peut agir par là, un frère ou une sœur reçoit le baptême du Saint-Esprit ici, aussitôt après un autre se met à parler en langue au fond, l'autre c'est par là, ça veut dire que ça change. Pourquoi? Parce que Dieu est en action. Le Saint-Esprit est en action, alléluia, que Dieu soit béni. Et le jour de la Pentecôte, c'est exactement ce qui s'est passé. Des Juifs de toutes les nations qui sont sur la terre étaient montés pour adorer à Jérusalem. Et non seulement le vent impétueux a agi de telle manière que des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues séparément. Et en plus, se sont mis à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ce qui a provoqué dans le cœur de ces Juifs d'autres nations des questions. Ces hommes ne sont-ils pas tous galiléens? Alors comment se fait-il que nous les entendons parler dans nos langues maternelles et en parlant dans nos langues maternelles, voici qu'ils disent les merveilles de Dieu. Mes amis, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous sortez pas de vos bouches des âneries. Et même si c'était des langues qui étaient inconnues pour eux, mais les gens des nations, ils reconnaissaient exactement leur langage. Le Saint-Esprit leur donnait des langues dans lesquelles ils s'exprimaient, mais Dieu permettait que des gens comprennent ce qu'ils disent. Alors, pasteur gentil, pouvez-vous nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, moi, je vous dirais que pour faire simple, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce à quoi tout enfant de Dieu né de nouveau aspire. Et parce qu'il aspire, il le recherche. Conscient que c'est une promesse de Jésus, et puis montrant au Seigneur, aidez-moi. Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, mais si tu n'as pas soif, comment veux-tu boire? Mais si tu as soif, alors tu viens à la source. Et celui qui désaltère, qui s'appelle Jésus, va te désaltérer par la réception du baptême du Saint-Esprit. Et certains disent, j'ai cherché, ça n'a pas marché. Et puis laisse tomber. Non! Il ne faut jamais laisser tomber. Il faut montrer au Seigneur que tu as soif. Car quand quelqu'un a soif, tant qu'il n'est pas désaltéré, la soif le titille. La soif le pousse maintenant à rechercher où il va trouver de l'eau. Est-ce que tu as soif ce soir? Bah, je dis pas toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit. Je parle de ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela doit se faire. Oh, écoutez, je vais vous donner encore un petit aperçu. Si vous sentez pas dans votre cœur ce désir, eh bien, allez trouver Jésus et dites-lui, Seigneur, crée en moi le désir de recevoir le baptême du Saint-Esprit afin que je le recherche de manière qu'il soit conforme à ta parole. C'est une prière. Écoute, Jésus est là à ta disposition. Il t'attend. Oh, s'il t'attend, mais viens à lui. Parle à lui. Explique-lui la situation et laisse-le maintenant accomplir le désir de ton cœur. Salomon déclare, un désir accompli est une source de vie. Mais un espoir différé rend le cœur malade. Ouh. Écoutez, mes bien-aimés, Jésus-Christ a fait de moi un homme de l'Écriture. Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce qui est l'Écriture. Et des fois, quand vous dites l'Écriture, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Et moi, que ça plaise ou pas, ça me fait ni chaud ni froid. Je dis ce que le Maître dit. Et quand je suis là dans l'Écriture, je suis à mon aise. Je suis à mon aise parce que je parle dans la présence de celui qui m'a appelé au ministère pastoral. Gloire à Dieu. Premier vent, la nouvelle naissance. Jésus en parle. Et c'est ce premier vent, la nouvelle naissance, qui me donne accès à recevoir ce qui est défini comme un peu le deuxième vent, l'action de l'Esprit, la réception du baptême du Saint-Esprit. Où sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Levez la main, s'il vous plaît. Bien, c'est bien. Je vais poser la question différemment. Où sont ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Ah, mais il y en a autant. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part, n'est-ce pas? Ah oui. Et il faudra que nous puissions nous y atteler. Et ce sera, Dieu est en train de vous donner un mode de fonctionnement biblique qui, si vous le comprenez et que vous entrez dans ce sillon, je crois que le Seigneur va vous donner à vivre avec lui cette expérience. Amen. Que Dieu soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Voulez-vous une troisième voix? Le premier, c'est la nouvelle naissance. Le deuxième, la réception du baptême du Saint-Esprit. Et une fois que vous avez expérimenté ces deux premiers vents, vous allez être capable aussi, non seulement de comprendre, deuxièmement de supporter, troisièmement d'appréhender ce que la parole de Dieu nous dit. Je cherche la référence dans l'évangile de Matthieu, je crois. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 24, où nous voyons Jésus s'exprimer dans ce qu'on appelle communément, dites avec moi, le sermon sur la montagne. Matthieu 7, verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et après, lisez, les vents ont soufflé. Et vous voyez que Jésus n'a pas dit le vent a soufflé, hein? Mais Jésus dit les vents ont soufflé. Et bien là, nous sommes sur ce que nous pourrions appeler les vents des épreuves. Mais oui, lorsque tu es né de nouveau, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'y a aucune garantie que tu ne connaîtras pas d'épreuves. Je dirais plutôt au contraire. Au contraire. Dieu va utiliser les épreuves pour que progressivement dans ta marche comme son enfant ou dans ta vie comme son enfant, il t'affermisse de plus en plus. Mais bien sûr, mes bien-aimés, écoutez. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. L'apôtre dit, ce n'est pas quelque chose d'étrange qui vous survient d'être dans la fournaise de l'épreuve. Il ne parle pas du vent, mais il parle maintenant de fournaise. Vous avez déjà été dans une fournaise? Eh bien, moi, je définis que la fournaise montrerait chaleur insupportable. La fournaise, incapacité sur un plan humain d'y tenir. C'est pas possible. Et pourtant, Dieu le permet. Mais en permettant l'épreuve, c'est comme si Dieu prenait de l'or et dans un désir que cet or brut soit de plus en plus affiné, eh bien, il le met à l'épreuve du feu. J'ai déjà eu l'occasion de vous faire cette image que lorsque le fondeur a trouvé une masse d'or ou une pépite, la pépite à l'origine est brute. Mais il faut que pour cette pépite brute, eh bien, soit affinée et que l'or soit déclaré pur, alors cet or est pris et il est mis dans un récipient qu'on appelle le creuset ou le fourneau. Parce que le creuset, c'est pour l'argent et le fourneau, c'est pour l'or. Et là, mis à une très haute température, un très haut degré d'intensité de la chaleur, cette masse va progressivement fondre et en plus, ça va se liquéfier et en plus, ça va se mettre en ébullition.
Vous sentez que ça bouillonne? Mais pendant que vous sentez que ça bouillonne, regardez ce qui se passe.
Vous découvrirez que progressivement, avec la fonte, les scories vont se mettre à monter à la surface. Et le fondeur ne reste pas les bras croisés. Il prend un récipient et il enlève une couche de scorie, il dégage. Laisse bouillir encore. Il dégage une autre couche de scorie.
Et il enlèvera autant de couches de scorie. Mais vous savez, quand Dieu agit, lorsqu'il nous met à l'épreuve, c'est qu'il veut enlever des scories. Et tant qu'il n'a pas fini d'enlever les scories, il permet des épreuves. Mais ça veut dire que ça bouillonne. Mais à un moment donné, une fois qu'il estime qu'il n'y a plus de scories, alors il éteint son feu et laisse son or au repos. Et il va se passer ceci, c'est que l'or refroidi, ou sur l'or refroidi, vous verrez, par rapport à la température, qu'il se formera une mince pellicule qui va devenir transparent comme un miroir. Et après, le fondeur va regarder cet or et lorsqu'il estimera qu'il voit son visage dans le mince pellicule qui est comme un miroir, alors il prend son or et commence à le mettre dans des petits récipients et il prend un poinçon et il met dessus pour déclarer que cet or est pur. Quelle leçon spirituelle Dieu veut que je tire de cela? Et dans les épreuves, qu'est-ce que Dieu veut retrouver en moi? Dieu veut voir l'image de Jésus-Christ. Et plus Dieu permet les épreuves pour me faire grandir, plus il veut que Christ soit formé en moi, que Christ paraisse en moi, que Christ soit vu en moi, et que je m'exprime comme Christ dans les Saintes Écritures. Mon langage, ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière de raisonner, à l'image de celui qui est venu habiter mon cœur par le Saint-Esprit. Donc les épreuves sont nécessaires. Je dirais même, elles sont obligatoires dans la vie chrétienne. C'est un peu le principe de l'école de Dieu. Dans le psaume 144, vous voyez les psalmistes qui bénissent Dieu. Béni soit Dieu, l'Éternel, qui fait quoi? Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ah, nous sommes sur le terrain du soldat de Jésus-Christ qui a besoin d'exercice pour savoir manier les armes spirituelles. Car si tu vas sur le terrain de bataille sans avoir été à l'école pour apprendre le maniement des armes, oh, je sais que tu me diras, pasteur gentil, mais dans Éphésiens 6, l'apôtre dit, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu, d'accord? Pour les prendre, j'ai pas besoin de faire d'efforts, ils sont à ma disposition. Mais pour les manier, il faut que je sois entraîné. Certains prennent les armes de Dieu, c'est bien de les prendre. Mais ils n'ont pas d'exercice. Alors, une arme dans ta main sans exercice devient rapidement inefficace. Mais quand tu es exercé à manier l'épée de l'esprit, quand tu as pris le bouclier de la foi et que tu es sur le terrain et que Dieu est avec toi, il y a un qui va passer un sale quart d'heure. Parce que tu as un nom qui est au-dessus de tout nom qui s'appelle le nom de Jésus. Et quand tu le fais valoir dans la foi avec la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut tenir. Ni aucun démon, ni aucun mauvais esprit. Parce que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Encore faut-il que tu le comprennes. Ça c'est quoi? C'est le troisième vent. Le vent de l'épreuve. Dieu va t'exercer à pouvoir l'affronter. Écoutez, Jésus va donner un ordre à ses apôtres. Maintenant, passons à l'autre bord. Et dès lors que Jésus dit de passer à l'autre bord, vous connaissez l'écriture, il rentre dans la barque avec ses disciples. Et aussitôt après, voici notre Seigneur qui va faire un petit somme. Et puis il s'endormit. Oh, dans la logique, si Jésus qui m'a dit de passer à l'autre bord s'endort, eh bien moi je regarde Jésus et je me mets aussi à dormir comme Jésus.
Je dis dans la logique. Mais les apôtres, c'était pas du tout ça. Parce que cheminant sur la mer, à un moment donné, la Bible nous dit que les vents leur étaient contraires et la barque se remplissait de telle manière que, à un moment donné, ils ont réveillé Jésus.
Seigneur, réveille-toi! Mais Seigneur, t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Ah, Jésus n'a pas dit au secours, sauf qui peut Dieu pour tous et chacun pour soi? Chacun pour soi, Dieu pour tous? Non, Jésus s'est réveillé, d'accord.
Mais aussitôt qu'il s'est réveillé,
silence! Tais-toi! À qui s'adresse-t-il?
Au vent et à la mer.
Et le tourbillon se déchaîna encore plus fortement. Non! Et il y eut un grand calme. Pourquoi?
Parce que Jésus dormait sur sa parole.
Alors je vois des questions qui se posent. Alors, pasteur gentil, si Jésus dormait, et que les disciples comme Jésus dormaient, alors qui allait conduire la barque?
Écoutez, la parole de Jésus était suffisante pour que même si tout le monde dormait, ils arrivent à l'autre bord. Parce que le Saint-Esprit est capable de prendre les choses en main. Parce que vous voyez mentionné dans Marc 5, verset 1er, ils arrivèrent à l'autre bord.
Satan veut toujours te faire croire le contraire. Et tellement il veut te faire croire le contraire dans l'épreuve, il va te même mettre à douter de ton salut. Il va faire de ton esprit un champ de spéculation, de telle manière que tu seras ballotté à droite et à gauche. Mais quand tu t'appuies sur la parole de Jésus, tu n'as qu'une seule chose, une ligne droite.
Et tu vas dans la tranquillité, dans la paix. Parce que celui qui a donné la parole veille sur elle pour l'accomplir.
Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Où?
Dans le ciel et bon. Alors une fois que tu as compris ça, tu demeures tranquille. Tu fais ta part et tu laisses le Seigneur faire sa part. Je dis bien tu fais ta part, hein, parce que ta part, c'est pas Dieu qui va le faire pour toi. Hein.
Voulez-vous que nous voyons le dernier vent?
Bon, ah ben si vous dites oui, c'est parce que ça vous intéresse.
Bien, alors le dernier vent, nous allons le trouver dans Éphésiens 4:4.
Éphésiens 4:4, et même pour plus de clarté, je vais vous inviter même à prendre un peu plus haut. Et je vais vous amener sur un terrain peut-être un peu particulier pour ce dernier vent, où le Seigneur va nous donner à grandir dans la connaissance de sa parole.
Gloire à Dieu.
Alors j'ai dit Éphésiens, le chapitre 4, verset 14. Mais pour plus de clarté, prenons-le à partir du verset 11. Éphésiens 4, au verset 11.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Oh, quelle belle déclaration, amen.
Et puis, voici ce qui nous intéresse. Ainsi, à cause des ministères que Jésus donne à l'Église, à cause du rôle des ministères établi par Jésus, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, parce que j'en dis, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fait, c'est celui qui, par l'usage, est exercé à discerner le bien du mal. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants emportés
à tout vent de doctrine, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Vent de doctrine, mais accompagné de la tromperie des hommes. Et ces hommes, pour tromper, manifestent par leur ruse, et puis voici qu'il emploie un mot, par les moyens de séduction. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Vous avez compris, frères et sœurs en Christ, que derrière ce que nous venons de lire, le quatrième vent serait à définir comme le vent des doctrines, qui diffère en tout point de la doctrine de Christ qui est selon la piété, de la doctrine de Christ qui est puissante, de la doctrine de Christ qui a cette particularité de fermer la bouche des détracteurs et de mettre en évidence tout ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, dans le milieu évangélique, ou même sous un aspect qu'on définirait comme étant de l'évangélisme moderne, de plus en plus, vous voyez, des choses que Jésus n'a pas instituées, qui s'établissent. Par exemple, vous n'allez pas dire que je vais faire de ça mon dada. Excusez-moi, je n'ai pas de dada. Mais de plus en plus, vous voyez que dans certaines mesures, dans des assemblées, on voit qu'il s'institue ce qu'on appelle communément un couple pastoral. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il y a monsieur le pasteur et madame la pastoresse. Alors, je pose la question, avez-vous vu dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ a établi des femmes pasteurs? Si vous l'avez trouvé, montrez-le-moi. Alors, pourquoi ça se fait ailleurs? Mais c'est exactement les fausses doctrines. Et certains se complaisent parce que, il y en a tellement que le nombre serait trop grand que je les mentionne. Dieu m'a pas mis là ce soir pour pouvoir parler de ceux qui se prétendent établis, mais de ce que sa parole dit. Fausse doctrine! Certains disent qu'il faut prier le Saint-Esprit, il faut l'adorer, il faut le glorifier. Et ça semble bien, parce que beaucoup adhèrent, beaucoup cautionnent, ça plaît. Mais tout en étant plaisant, c'est en dehors de l'Écriture. Alors si c'est en dehors de l'Écriture, il y a danger. Mais excusez-moi de vous le dire, frères et sœurs en Christ, je ne veux pas être trop virulent. Je m'appelle gentil. Mais tout en étant gentil, je vais être sérieux dans l'Écriture, mes amis. Écoutez, j'ai regardé Salomon s'exprimer. J'ai compris que derrière les propos de Salomon, c'était les fausses doctrines qui étaient entrevues, mais sous un aspect particulier. Écoutez, je ne vais pas vous dire plus, allons à l'Écriture. Regardez l'Écriture. Alors, j'ai trouvé dans Proverbe 2, à partir du verset 11, comment Salomon, lui qui nous donne des premiers versets des Proverbes, Proverbe 1, jusqu'au verset 7, et jusqu'au chapitre 7, nous voyons Salomon nous donner ce qui correspondrait, eh bien, à un enseignement destiné au fils de la sagesse. Image de Jésus-Christ et de l'Église. Et dans tout ce qu'il dit dans le chapitre 2, il donne des éléments qui constitueraient à la recherche de la sagesse qui ouvre la porte à l'intelligence. Mais lorsqu'il arrive dans Proverbe 2, à partir du verset 11, voici qu'il dit ce qui va produire la sagesse et l'intelligence, qui va mener la réflexion veillera sur toi. Et l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme pervers, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses. Et voici ce que va faire la sagesse et la réflexion. Il va t'amener au discernement pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, mais qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Mais nous avons derrière cette femme doucereuse, cette femme étrangère, ce qui caractériserait et définirait l'image d'une fausse doctrine. Au départ, c'est toujours séduisant. Ça a un aspect attrayant. Ça semble porter des nouveautés, mais c'est comme un gâteau empoisonné. Lorsque vous y goûtez, eh bien vous vous empoisonnez vous-même sans le savoir. Vous avez noté? Doctrine étrangère, comme une femme séduisante. Regardez une autre image que donne Salomon. Proverbe 7, versets 1 à 5. Mon fils, retiens mes paroles. Ce soir, est-ce que tu es de ceux qui veulent retenir les paroles du Seigneur? Oui, nous voulons les retenir, Seigneur, aide-nous. Donne-nous par le Saint-Esprit à retenir tes paroles. Et après les paroles, il rajoute, et garde avec toi mes préceptes. Savez-vous ce que sont les préceptes de Dieu? Ce sont les déclarations de Dieu concernant sa propre nature et ses desseins. Et dans l'Écriture, tout au long de ces Écritures, les préceptes sont mis en évidence. Dieu est saint, un précepte. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Autant de préceptes pour définir et qualifier ce qu'est notre Père Céleste et notre Dieu. On y va, on continue. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence, mon ami. Et voici ce qui va en découler. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Et la même chose de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Et quand vous lirez la suite, vous verrez l'attitude de la femme étrangère. Ce qu'elle prétend, ses actions, et malheureusement, ce qui risque d'arriver à ceux qui s'attachent à elle. Puis même ça va très loin, ils ne savent pas que derrière elle, eh bien, c'est la porte du séjour des morts qui leur ouvre sa gueule. Frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu pour cette assemblée. C'est pas parce que j'y suis, mais j'y suis né. Et vous comprenez bien que maintenant que Jésus m'a appelé dans le ministère, je suis en garde contre tout ce qui est étranger et qui voudrait s'infiltrer dans l'église du Seigneur. Vous dites ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus dit. Le reste, peut-être même qu'il y a ce soir au milieu de nous des gens qui ont adhéré à des fausses doctrines. Mais ils sont allés ailleurs. Et en allant ailleurs, eh bien, n'importe quoi peut se faire. Mais ce soir, si vous êtes là, vous savez que l'Écriture est l'Écriture. Et le vent des doctrines, ça a soufflé, ça souffle, et ça soufflera encore. Mais quand le vent des doctrines souffle, vous savez ce que je fais? Regardez-moi bien. Hein? Vous me regardez? Alors, supposez que là, il y a une muraille qui s'est dressée. Moi, je me mets derrière la muraille. Alors, le vent de la doctrine peut souffler, mais moi, je suis derrière la muraille. Alors, tu ne seras à l'abri que derrière les murailles des saintes écritures. Tu seras préservé et gardé. Et plus tu te préserves, le Seigneur te préservera.
Premier vent, la nouvelle naissance. Deuxième vent, le baptême du Saint-Esprit. Troisième vent, le vent des épreuves, dont Dieu va te donner la capacité de supporter parce que tu es né de nouveau et tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et puis dernier vent, mise en garde. Voilà ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous ce soir. Prions le Seigneur.